En ce moment, Asie et son avocat se trouvaient précisément devant la fenêtre du corps de garde, d'où les gendarmes peuvent voir le mouvement du guichet de la conciergerie. Les gendarmes, nourris dans le respect dû aux défenseurs de la veuve et de l'orphelin, connaissant d'ailleurs les privilèges de la robe, tolérèrent pour quelques instants la présence d'une baronne accompagnée d'un avocat. Asie se laissait raconter par le jeune avocat les épouvantables choses qu'un jeune avocat peut dire sur le guichet. Elle refusa de croire qu'on fît la toilette aux condamnés à mort derrière les grilles qu'on lui désignait. Mais le brigadier le lui affirma. « Comme je voudrais voir cela, » dit-elle. Elle resta là, coquetant avec le brigadier et son avocat, jusqu'à ce qu'elle vît Jacques Collin, soutenu par deux gendarmes et précédé de l'huissier de M. Camusot, sortant du guichet. « Ah ! Voilà l'aumônier des prisons qui vient sans doute de préparer un malheureux. »« Non, non, madame la baronne, » répondit le gendarme. « C'est un prévenu qui vient à l'instruction. »« Et de quoi donc est-il accusé ? » ?»« Il est impliqué dans cette affaire d'empoisonnement. » « Oh, je voudrais bien le voir. »« Vous ne pouvez pas rester ici, » dit le brigadier, « car il est au secret et va traverser notre corps de garde. Tenez, madame, cette porte donne sur l'escalier. »« Merci, monsieur l'officier, » dit la baronne en se dirigeant vers la porte pour se précipiter dans l'escalier où elle s'écria. « Mais où suis-je ?» Cet éclat de voix alla jusqu'à l'oreille de Jacques Collin, qu'elle voulait ainsi préparer à la voir. Le brigadier courut après madame la baronne, la saisit par le milieu du corps et la transporta comme une plume au milieu de cinq gendarmes qui s'étaient dressés comme un seul homme. Car dans ce corps de garde, on se défie de tout. C'était de l'arbitraire, mais de l'arbitraire nécessaire. L'avocat lui-même avait poussé deux exclamations. « Madame, madame !» pleine d'effroi, tant il craignait de se compromettre. L'abbé Carlos Herrera, presque évanoui, s'arrêta sur une chaise dans le corps de garde. « Pauvre homme !» dit la baronne. « Est-ce là un coupable ?» Ces paroles, quoique prononcées à l'oreille du jeune avocat, furent entendues par tout le monde, car il régnait dans cet affreux corps de garde un silence de mort. Quelques personnes privilégiées obtiennent quelquefois la permission de voir les fameux criminels pendant qu'ils passent dans ce corps de garde, ou dans les couloirs, en sorte que l'huissier et les gendarmes chargés d'amener l'abbé Carlos Herrera ne firent aucune observation. D'ailleurs, il existait, grâce au dévouement du brigadier qui avait empoigné la baronne, pour empêcher toute communication entre le prévenu mis au secret et les étrangers, un espace très rassurant. « Allons, » dit Jacques Collin, qui fait un effort pour se lever. En ce moment, la petite boule tomba de sa manche, et la place où elle s'arrêta fut remarquée par la baronne, à qui son voile laissait la liberté de ses regards. Humide et graisseuse, la boulette n'avait pas roulé, car ces petites choses en apparence indifférentes étaient toutes calculées par Jacques Collin pour une complète réussite. Lorsque le prévenu fut conduit dans la partie supérieure de l'escalier, Asie lâcha très naturellement son sac et le ramassa lestement. Mais en se baissant, elle avait pris la boule, que sa couleur, absolument pareille à celle de la poussière et de la boue du plancher, empêchait d'être aperçue. « Ah ! » dit-elle, « ça m'a serré le cœur, il est mourant. »« Où il le paraît ?» répliqua le brigadier. « Monsieur, » dit Asie à l'avocat, « conduisez-moi promptement chez M. Camusot. Je viens pour cette affaire. Et peut-être sera-t-il bien aise de me voir avant d'interroger ce pauvre abbé. » L'avocat et la baronne quittèrent le corps de garde aux murs oléagineux et fuligineux. Mais quand ils furent en haut de l'escalier, Asie fit une exclamation. « Et mon chien ! Oh, monsieur, mon pauvre chien !» Et comme une folle, elle s'élança dans la salle des pas perdus en demandant son chien à tout le monde. Elle atteignit la galerie marchande et se précipita vers un escalier en disant « Le voilà !» Cet escalier était celui qui mène à la cour de Harlay. Par où, sa comédie jouée, elle alla se jeter dans un des fiacres qui stationnent au quai des Orfèvres et elle disparut avec le mandat à comparaître lancé contre Europe dont les véritables noms étaient encore ignorés par la police et par la justice. « Rue Neuve-Saint-Marc » cria-t-elle au cocher. Asie pouvait compter sur l'inviolable discrétion d'une marchande à la toilette, appelée Madame Nourrisson, également connue sous le nom de Madame Saint-Estève, qui lui prêtait non seulement son individualité, mais encore sa boutique, où Nucingen avait marchandé la livraison d'Esther. Asie était là comme chez elle, car elle occupait une chambre dans le logement de Madame Nourrisson. Elle paya le fiacre et monta dans sa chambre après avoir salué Madame Nourrisson de manière à lui faire comprendre qu'elle n'avait pas le temps d'échanger deux mots. Une fois loin de tout espionnage, Asie se mit à déplier les papiers avec les soins que les savants prennent pour dérouler des palimpsestes. Après avoir lu ces instructions, elle jugea nécessaire de transcrire sur du papier à lettres les lignes destinées à Lucien. Puis elle descendit chez Madame Nourrisson, qu'elle fit causer pendant le temps qu'une petite fille de boutique alla chercher un fiacre sur le boulevard des Italiens. Asie eut ainsi les adresses de la duchesse de Maufrigneuse et de Madame de Sérisy, que connaissait Madame Nourrisson par ses relations avec les femmes de chambre. Ces diverses courses, ces occupations minutieuses, employèrent plus de 2 heures. Madame la duchesse de Maufrigneuse, qui demeurait en haut du faubourg Saint-Honoré, fit attendre Madame de Saint-Estève pendant 1 heure. Quoique la femme de chambre lui eût fait passer par la porte de son boudoir, après y avoir frappé, la carte de Madame de Saint-Estève, sur laquelle Asie avait écrit « Venue pour une démarche urgente concernant Lucien ». Au premier rayon qu'elle jeta sur la figure de la duchesse, Asie comprit combien sa visite était intempestive. Aussi s'excusa-t-elle d'avoir troublé le repos de Madame la Duchesse sur le péril dans lequel se trouvait Lucien. « Qui êtes-vous ? » demanda la Duchesse sans aucune formule de politesse, en toisant Asie, qui pouvait bien être prise pour une baronne par Maître Massol dans la salle des pas perdus, mais qui, sur les tapis du petit salon de l'hôtel de Cadignan, faisait l'effet d'une tache de cambouis sur une robe de satin blanc. « Je suis une marchande à la toilette, Madame la Duchesse, car, en semblable conjoncture, on s'adresse aux femmes dont la profession repose sur une discrétion absolue. Je n'ai jamais trahi personne, et Dieu sait combien de grandes dames m'ont confié leurs diamants pour 1 mois, en demandant des parures en faux absolument pareilles aux leurs. « Vous avez un autre nom ?» dit la duchesse en souriant d'une réminiscence que provoquait en elle cette réponse. « Oui, Madame la Duchesse, je suis Madame Saint-Estève dans les grandes occasions, mais je me nomme dans le commerce Madame Nourrisson. »« Bien, bien !» répondit vivement la duchesse en changeant de ton. « Je puis, » dit Asie en continuant, « rendre de grands services, car nous avons les secrets des maris aussi bien que ceux des femmes. » « J'ai fait beaucoup d'affaires avec M. de Marsay que Madame la Duchesse... »«
Assez, assez !» s'écria la Duchesse. « Occupons-nous de Lucien. » »«
Si Madame la Duchesse veut le sauver, il faudrait qu'elle eût le courage de ne pas perdre de temps à s'habiller. D'ailleurs, Madame la Duchesse ne pourrait pas être plus belle qu'elle ne l'est en ce moment. Vous êtes jolie à croquer, parole d'honneur de vieille femme. Enfin, ne faites pas atteler, Madame, et montez en fiacre avec moi. » « Venez chez Madame de Sérisy si vous voulez éviter des malheurs plus grands que ne le serait celui de la mort de ce chérubin. »«
Allez, je vous suis !» dit alors la duchesse après un moment d'hésitation. « À nous deux, nous donnerons du courage à Léontine. »
Malgré l'activité vraiment infernale de cette Dorine du bagne, 3 heures sonnaient quand elle entrait avec la duchesse de Maufrigneuse chez Madame de Sérisy, qui demeurait rue de la Chaussée-d'Antin. Mais là, grâce à la duchesse, il n'y eut pas un instant de perdu. Toutes deux, elles furent aussitôt introduites auprès de la comtesse, qu'elles trouvèrent couchée sur un divan, dans un chalet en miniature, au milieu d'un jardin embaumé par les fleurs les plus rares. « C'est bien, » dit Asie en regardant autour d'elle. « On ne pourra pas nous écouter. »«
Ah, ma chère, je me meurs. Voyons, Diane, qu'as-tu fait ?» s'écria la comtesse, qui bondit comme un faon en saisissant la duchesse par les épaules et fondant en larmes.
« Allons, Léontine, il y a des occasions où les femmes comme nous ne doivent pas pleurer, mais agir, » dit la duchesse en forçant la comtesse à se rasseoir avec elle sur le canapé.
Asie étudia cette comtesse avec ce regard particulier aux vieilles rouées et qu'elle promène sur l'âme d'une femme avec la rapidité des bistouris de la chirurgie fouillant une plaie. La compagne de Jacques Collin reconnut alors les traces du sentiment le plus rare chez les femmes du monde. Une vraie douleur. Cette douleur qui fait des sillons ineffaçables dans le cœur et sur le visage. Dans la mise, pas la moindre coquetterie. La comtesse comptait alors 45 printemps et son peignoir en mousseline imprimée et chiffonnée laissait voir le corsage sans aucune préparation ni corset. Les yeux cerclés d'un tour noir, les joues marbrées attestaient des larmes amères. Pas de ceinture au peignoir. Les broderies de la jupe de dessous et de la chemise étaient fripées. Les cheveux ramassés sous un bonnet de dentelle, ignorant les soins du peigne depuis 24 heures, montraient une courte natte grêle et toutes les mèches à boucles dans leur pauvreté. Léontine avait oublié de mettre ses fausses nattes. « Vous aimez pour la première fois de votre vie, » lui dit sentencieusement Asie. Léontine alors aperçut Asie et fit un mouvement d'effroi. « Qui est-ce, ma chère Diane ? » dit-elle à la duchesse de Maufrigneuse. « Qui veux-tu que je t'amène, si ce n'est une femme dévouée à Lucien et prête à nous servir ?» Asie avait deviné la vérité. Madame de Sérisy, qui passait pour être une des femmes du monde les plus légères, avait eu, pour le marquis d'Aiglemont, un attachement de 10 années. Depuis le départ du marquis pour les colonies, elle était devenue folle de Lucien et l'avait détachée de la duchesse de Maufrigneuse, ignorant, comme tout Paris d'ailleurs, l'amour de Lucien pour Esther. Dans le grand monde, un attachement constaté gâte plus la réputation d'une femme que 10 aventures secrètes, à plus forte raison 2 attachements. Néanmoins, comme personne ne comptait avec Madame de Sérisy, l'historien ne saurait garantir sa vertu à 2 écornures. C'était une blonde de moyenne taille, conservée comme les blondes qui se sont conservées, c'est-à-dire paraissant à peine avoir 30 ans. Fluette sans maigreur, blanche, à cheveux cendrés, les pieds, les mains, le corps d'une finesse aristocratique, spirituelle comme une Ronquerolles, et par conséquent aussi méchante pour les femmes qu'elle était bonne pour les hommes. Elle avait toujours été préservée par sa grande fortune, par la haute position de son mari, par celle de son frère, le marquis de Ronquerolles, des déboires dont eût été sans doute abreuvée toute autre femme qu'elle. Elle avait un grand mérite. Elle était franche dans sa dépravation. Elle avouait son culte pour les mœurs de la Régence. Or, à 42 ans, cette femme, pour qui les hommes avaient été jusque-là d'agréables jouets, et à qui, chose étrange, elle avait accordé beaucoup en ne voyant dans l'amour que des sacrifices à subir pour les dominer, avait été saisie, à l'aspect de Lucien, par un amour semblable à celui du Maron de Nucingen pour Esther. Elle avait alors aimé, comme venait de lui dire Asie, pour la première fois de sa vie. Ces transpositions de jeunesse sont plus fréquentes qu'on ne le croit chez les Parisiennes, chez les grandes dames, et causent les chutes inexplicables de quelques femmes vertueuses au moment où elles atteignent au port de la quarantaine. La duchesse de Maufrigneuse était la seule confidente de cette passion terrible et complète dont les bonheurs, depuis les sensations enfantines du premier amour jusqu'aux gigantesques folies de la volupté, rendaient Léontine folle et insatiable.